IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'économie en direct sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, à écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Très heureuse de vous retrouver et merci de nous suivre. Ensemble jusqu'à 11h, on ne lâche rien sur IDFM Radio pour ne rien manquer de l'actualité économique du Val d'Oise. Elles accompagnent, elles créent, elles transforment. Ce matin, dans l'économie en direct, 5 femmes, 5 parcours, mais un même moteur, entreprendre avec impact sur notre territoire. Et parce que l'économie en direct, c'est comme un feuilleton permanent, chaque mois apporte son nouvel épisode, ses rebondissements et ses suspens. Aujourd'hui, vendredi 23 janvier 2026, nous avons un nouvel épisode sur les entrepreneuriades, 4e édition. Un concours organisé par Initiative 95-78 et ses partenaires, dont bien sûr Pleine Vallée. Un concours destiné à accompagner et récompenser les créateurs, créatrices d'entreprises et jeunes pousses de moins de 5 ans, avec précisément aujourd'hui 3 lauréats désignés lors de la remise des prix du 25 novembre 2025, accompagnés bien sûr par une représentante d'Initiative et de 14K de Pleine Vallée. Bonjour Mama Comté.
Bonjour Jacqueline.
Mama, vous êtes chef de projet événementiel d'Initiative 95-78 et avec vous, on va reprendre tous les fondamentaux des entrepreneuriades. Julie Martineau, bonjour.
Bonjour Jacqueline.
Chargée de mission des entrepreneuriats pour 14K. Avec Mama aussi, vous nous direz toute votre implication pour les entrepreneuriades. Et donc les 3 lauréates, Aram Bouga, fondatrice de Pure Alpha. Bonjour Aram.
Bonjour Jacqueline.
Charlène Okumu, fondatrice de Madia Madia.
Exactement. Bonjour Jacqueline.
Je vais avoir du mal hein, ce matin.
On va y arriver.
Et Malia Toussaint, fondatrice de Nivar. Bonjour Malia.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Et on commence avec vous, Mama, focus sur Initiative. Donc, déjà, peut-être... On le fait à chaque fois, mais je trouve que c'est important. Quelques mots sur Initiative et son rôle auprès des entrepreneurs du territoire.
Bien sûr. Donc, Initiative est une structure associative qui accompagne et qui finance les entrepreneurs donc sur le territoire des Yvelines et du Val d'Oise. Donc on a trois grands principes. Donc c'est tout d'abord l'accompagnement. Donc des porteurs de projets et des entreprises dans le cadre du développement de celles-ci ou de la création, également le financement, donc couplé toujours à un prêt bancaire. Donc en fait on aide et on met en relation les entrepreneurs que nous accompagnons avec les banques, et également la mise en réseau. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment un appui au développement, donc avec du mentorat et des services annexes dans tout ce qui concerne aussi la prévention des risques financiers.
Très bien, donc une association qui marche très fort et qui a d'excellents résultats.
Tout à fait. Initiative a accompagné en 2024 en tout cas, plus de 1300 entreprises donc sur le Val d'Oise et les Yvelines. Donc on est quand même fiers exactement de tout ce qu'accomplissent
Alors aujourd'hui vous êtes avec nous Mama pour nous parler du concours des entrepreneuriats de Pleine Vallée. Qu'est-ce que ce concours ?
Donc Julie parlera mieux de moi, en tout cas de Pleine Vallée et de 14K, mais c'est vraiment un événement qui est organisé en copartenariat avec l'agglomération de Pleine Vallée. Donc c'est un concours qui a vu le jour pour la 4e édition cette année. Et l'objectif, c'était vraiment de mettre en lumière le vivier d'entrepreneurs et de porteurs de projets du territoire Et l'objectif d'Initiative et de Pleine Vallée, c'est vraiment un accompagnement, une mise en lumière et surtout une valorisation des entrepreneurs qui sont sur le territoire. Donc ce concours, il est là vraiment pour féliciter, pour illuminer aussi et surtout pour aider et montrer justement qu'on a des pépinières sur le territoire, qu'on a en fait plein de structures aussi qui gravitent autour avec des partenaires qui ont aussi envie de soutenir justement l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat féminin, l'ESS, l'innovation. Pleine Vallée, 14K aussi ont des objectifs sur le territoire et on est aussi là en tout cas pour s'implanter et venir en aide en tout cas à toutes les personnes qui ont le besoin,
qui ont ces besoins. Et donc oui, c'est ça. On peut dire que c'est un véritable écosystème entrepreneurial.
Tout à fait.
Et alors nous cette année, pour ce concours, on était bien organisés. Donc on avait fait une émission en septembre, octobre, je sais plus très bien, mais en tout cas probablement en octobre. Donc pour le lancement du concours, oui. Puisque l'annonce des sélections c'était le 24 octobre 2025. Il y a eu les parcours de coaching les 12 et 24 novembre 2025 et le jury final avec la remise de prix le 25 novembre 2025.
Tout à fait. Donc entre le mois de septembre et le mois de janvier, il s'est écoulé plein de choses. Donc nous avons enfin nos lauréats, oui. Et donc nous avons 3 lauréates. Donc on a eu un très beau concours avec des candidats qu'ils aient été sélectionnés ou non. En tout cas, on a reçu de très beaux dossiers, de très beaux projets. Oui. Et donc aujourd'hui, nous avons en tout cas ressorti les trois projets qui ont émergé de votre
sélection.
Tout à fait.
On va leur donner la parole, bien sûr, tout à l'heure. Mais vous, Mama, vous pouvez nous présenter brièvement ces 3 gagnantes.
Bien évidemment. Donc, du coup, vous avez il y avait 3 catégories. Donc, vous aviez la catégorie porteur de projet, la catégorie jeune entreprise et la catégorie. Il y avait une catégorie en plus qu'on appelait le coup de cœur. Donc, Aram qui a concouru dans la catégorie jeune entreprise, donc de moins de 5 ans. On a également Charlène qui était dans la catégorie porteur de projet, donc elle parlera en tout cas mieux que moi de leur projet.
Bien sûr.
Et on a aussi Malia du coup qui a remporté le prix coup de cœur. Et donc on a eu un jury quand même de très grande qualité avec des partenaires donc de qualité qui ont lu les dossiers. Il y a eu également des pitchs, donc elles ont magnifiquement réussi leur pitch. Et je félicite également toutes les personnes qui ont aussi pris part au concours et au parcours d'accompagnement, qui ont aussi de très beaux projets. Donc en tout cas le jury a été très impressionné par la qualité des pitchs, par la qualité des projets et surtout par l'ambition de ces 3 femmes qu'on a aujourd'hui à nos côtés.
C'est ça, et c'est ce que nous avions dit avec Véronique Ribou était avec nous pour la présentation des entrepreneuriats. Donc Véronique Ribou, maire de Moisselles et puis administrateur chez 14K, c'est ça?
Oui, élue à l'entrepreneuriat.
C'est ça. Et donc Véronique avait souligné le fait de dire que bien sûr il y aurait des lauréats, mais que de toute façon tout le monde était gagnant.
Exactement.
Compte tenu du parcours du
Exactement.
Des entrepreneurs.
Donc en fait l'objectif pour nous ce n'est pas seulement de suivre les 3 lauréates, c'est vraiment de continuer le parcours avec l'ensemble des personnes qui ont du coup assisté au parcours de coaching. Donc en fait ça ne s'arrête pas seulement à la dotation ou du coup à la remise des lots. L'objectif pour nous c'est continuer aussi la mise en réseau et surtout continuer à les accompagner dans le cadre de leur développement, que ce soit financier, l'accompagnement qu'on continue en tout cas à mettre en place avec les différentes personnes qui ont pris part au concours et qui ont suivi l'accompagnement. Donc ça continue à se poursuivre. Donc là on est en janvier, le concours, la remise de prix a eu lieu en novembre. Donc là je pense qu'elles sont en plein dans tout ce qui est administratif, contact, rendez-vous et voilà, c'est vraiment un tremplin.
Elles vont nous raconter tout ça.
C'est ça.
Tout ce que vous écrivez, vous le considérez comme les besoins prioritaires des entrepreneurs que vous accompagnez?
Alors pour nous, la priorité, c'est vraiment de les aider à consolider, à structurer. Et c'est surtout en fait... Donc en fait, vous avez différents projets et chaque projet en réalité a son son avancement. Donc on va s'adapter justement à l'avancement et en fait on reste toujours à l'écoute donc du besoin de l'entrepreneur. Donc vous avez des entrepreneurs qui avancent plus vite que d'autres, d'autres qui ont justement besoin de temps aussi pour se rendre compte du coup de l'état des lieux, de faire l'état des lieux de leur projet, surtout quand on a par exemple un porteur de projet, pour lui c'est déjà aussi aller jusqu'à la création finale, comprendre la viabilité, comprendre comment fonctionne aussi l'écosystème entrepreneurial, parce que tout le monde n'est pas dans l'entrepreneuriat. Et donc l'objectif c'est aussi de se familiariser avec l'écosystème, les mots, tout le vivier qu'on a sur le territoire du 95.
Merci Mama pour ces éclairages très pertinents. Alors Initiative, c'est aussi des événements qui marchent fort, dont les apéro pitch, à un moment vraiment important dans la vie d'Initiative et puis pour les entrepreneurs. Un mot sur ces apéro pitch.
Bien sûr. Donc les apéro pitch d'Initiative ont lieu sur le Val d'Oise et également sur les Yvelines. En général, c'est le dernier vendredi du mois pour le 95. Donc en fait, l'objectif pour nous, c'est vraiment de lancer les entrepreneurs qui ont été financés donc les dernières semaines. Et en fait, c'est de les mettre en réseau avec les entreprises locales, les partenaires, les banques, les mentors. Donc c'est vraiment que tout l'écosystème du Val d'Oise puisse se rencontrer lors de ces réunions-là. Et en fait, c'est vraiment développer son chiffre d'affaires et faire de la mise en réseau. Donc pour nous, c'est vraiment l'événement phare pour rencontrer en tout cas une personne d'Initiative et continuer à développer son réseau professionnel. Donc on peut rencontrer des dispositifs, des entrepreneurs, des conseillers en financement, on peut rencontrer des banques, des experts, que ce soit des notaires, des agences de communication et autres. Et c'est vraiment pour nous un tremplin. Donc, toutes les personnes qui ressortent en tout cas de cet événement nous disent qu'ils ont à minima rencontré des personnes avec lesquelles elles souhaitent en tout cas continuer à travailler pour la suite.
Oui, il y a toujours beaucoup de monde. Pour le 95, ça se passe à la CMA.
Tout à fait.
Du 95, donc avec un bel amphi.
Exactement.
Donc, dans le 70, pour le 78, c'est à Versailles.
Exactement, c'est à Versailles et c'est également à la CMA de Versailles. Donc c'est vraiment un bel endroit. Ça se passe exactement de la même manière. Et en général, c'est le premier ou le deuxième vendredi du mois où on rencontre également la même chose, donc l'écosystème entrepreneurial des Yvelines.
Très bien. Merci infiniment. Si vous voulez faire un appel quand même, parce que justement pour animer tous ces apéros pitch et puis accompagner ces 1300 entrepreneurs ou entrepreneurs, il vous faut des mécènes, des mentors, des experts.
Exactement.
Donc vous êtes toujours en recherche.
Tout à fait. Donc on lance vraiment un appel. En tout cas, nous sommes à la recherche de mentors, donc de personnes qui ne sont soit plus en activité ou en tout cas qui ont eu une expérience par le passé assez ancré dans l'entrepreneuriat, et aussi toutes les personnes qui souhaiteraient accompagner des entrepreneurs avec des profils complètement différents, donc que ce soit des porteurs de projets ou des entreprises qui ont justement un bagage, mais qui souhaitent en tout cas donner du temps pour accompagner.
Du temps, de leur
exactement.
Temps. Donc si certains ou certaines nous écoutent et veulent s'inscrire, que faut-il faire?
Donc il faut aller sur le site internet d'Initiative et s'inscrire tout simplement aux réunions, s'engager avec Initiative, donc ce qui vous permet d'assister à une réunion collective dans laquelle on présente les services d'Initiative et également on sera à l'écoute du coup de ce que vous pouvez proposer et savoir si du coup on arrive à trouver un partenariat et qui soit bénéfique à tous.
Merci infiniment, c'était
merci
très
Jacqueline.
Clair Mama pour chef de projet événementiel, et puis merci à Initiative pour son engagement concret auprès des entrepreneurs et créer des passerelles essentielles entre idées, financement et réussite.
Merci.
On marque une pause avec Marc Lavoine et Les Yeux Revolver avant de poursuivre cet échange.
Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus, c'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et nous, ce matin, nous présentons les lauréates désignées au concours des entrepreneuriades. Avec moi dans le studio, Mama Conté, chef de projet événementiel d'initiative 95-78, Julie Martineau, chargée de mission entrepreneuriat 14K pour Plaine-Vallée, Aram Bouga, fondatrice de Pure Alpha, Charlène Okumu, fondatrice de Madia Madia, et Malia Toussaint, fondatrice de Nivar. Julie, un mot également sur déjà votre implication en tant que 14K de Plaine-Vallée. Donner peut-être une vision territoriale et institutionnelle.
Oui.
Pour ce concours.
Oui, effectivement, moi je vais pas me répéter par rapport à ce que Mama a déjà dit et c'était très complet, merci Mama. C'est vrai que ce concours qui est organisé par Plaine-Vallée Initiative nous tient énormément à cœur parce que nous en tant que service public, on est là pour aider les entrepreneurs du territoire que ce soit de la création au développement, à l'implantation. Et nous, notre objectif principal sur le territoire, c'est de créer de l'emploi local.
C'est ça.
Et d'aider toute personne qui en a besoin. Donc c'est vrai que ce concours est un énorme tremplin, une très belle visibilité, autant pour les services que propose l'agglomération, que pour Initiative, que pour les lauréats, et même les participants au concours.
Voilà. Et c'est vraiment, on peut dire que c'est le rôle de Plaine-Vallée dans le soutien à l'entrepreneuriat local. Hein,
Exactement, c'est l'événement typique de ce que des services que propose l'agglomération, parce qu'on a j'ai des collègues qui aident à toute étape de l'entrepreneuriat. Donc avec mon collègue en développement entrepreneurial qui aide pour tout ce qui est création d'entreprise et après pour les jeunes entreprises, on a la pépinière d'entreprise 14K justement qui aide autant pour les locaux que pour de l'accompagnement. Et j'ai des collègues qui sont sur de l'implantation et donc une fois l'entreprise développée, on les implante sur le territoire pour qu'ils puissent travailler près de chez eux.
C'est d'où ça, notre c'est baseline. Ce que disait maman, vous restez exactement. À l'écoute et vous accompagnez, vous continuez d'accompagner.
Exactement. Notre c'est slogan, c'est vivre et travailler autrement et on souhaite développer ce territoire et qu'il fasse bon vivre.
Bien sûr. Vous-même, Julie, quelle est votre implication dans ce concours des entrepreneuriades?
Alors moi, je suis la partie pleine vallée. Oui. Donc Mama et moi, ainsi que Kaina, qui a travaillé avec ouais. Mama. On a travaillé toutes les trois principalement. On n'était pas seules. Hein. Merci aussi à tous nos mécènes partenaires qui le concours n'existerait pas sans eux. Mais on était toutes les trois organisatrices. Moi, mon rôle, c'est vrai que le concours se passe au sein de 14K. Donc il y a une très grosse partie d'organisation de logistique sur place.
Oui.
Et il y a toute l'anticipation avant le concours, donc l'organisation de tout ce qui est rétro-planning, communication, recherche de mécènes et tout ce qui fait un concours.
Un gros travail en amont pour que ça se passe le mieux possible. Est-ce que vous pourriez tirer un bilan de cette quatrième édition des entrepreneuriales?
Oui, bien sûr. Déjà, on est très fiers parce que cette quatrième édition s'est très bien passée une nouvelle fois. Et la preuve en est, on a encore trois belles gagnantes. Et on est fiers de pouvoir dire que c'est encore trois femmes qui ont remporté.
C'est vrai.
Comme en 2022. Durant la deuxième édition. Donc on en tire un bilan très positif parce que au-delà de ces trois gagnantes, toutes les personnes qui ont participé et même candidaté avaient de très beaux projets. Malheureusement, il faut en sélectionner, il faut choisir. Et félicitations déjà à tous les candidats qui ont suivi le parcours de coaching et qui ont pu pitcher devant ce jury. Et franchement, en tant qu'agglomération, on est très fiers de pouvoir porter ce type de projet et de pouvoir mettre en lumière ces entrepreneurs.
Le jour de la remise des prix, donc ça s'est passé donc dans les locaux de 14K.
Effectivement.
Vous aviez sûrement beaucoup d'officiels, d'élus.
Oui. C'est vrai que pour cette remise des prix, on invite vraiment tout l'écosystème entrepreneurial. Donc, on avait on avait du beau monde avec pas mal d'élus de l'agglomération, mais également les présidents des chambres consulaires qui faisaient partie du jury également. Je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier et de faire des vexés.
C'est clair.
Mais vraiment, on avait l'ensemble de nos mécènes, on avait l'ensemble de nos partenaires, ce qui fait beaucoup de monde. 14K est grand et heureusement, voilà, les 1800 m² ont été rentabilisés pour cette soirée. Si je ne me trompe pas, on était plus de 80 personnes.
Ah oui,
on a arrêté de compter à un moment donné. Mais franchement, tout le monde est présent à ce rendez-vous et un moment fort. Exactement. Donc c'est génial.
Merci infiniment Julie, donc chargée de mission entrepreneuriat pour 14K. Et puis merci aussi à Pleine Vallée pour son engagement durable en faveur de l'entrepreneuriat, de l'emploi local et de l'innovation territoriale. Merci à vous.
Merci Jacqueline.
On respire en musique avec Vianney, Gustavo Duhamel et l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le titre Alléluia. Et on revient juste après pour la suite de notre débat.
Un jour une dame a dit d'accord. Donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la voilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Un jour la dame dit: vous les forts, gardez la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore. Et le monde attend le temps de l'Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est l'économie en direct et merci d'être resté avec nous jusqu'à 11h. Aujourd'hui, nous parlons des entrepreneuriats de dernière édition qui était la quatrième, en compagnie toujours de Mama Conté, Julie Martineau, Aram Bouga, Charlène Okumu et Malia Toussaint. Donc, Aram, c'est à vous de prendre la parole à présent. Donc, Aram Bouga, Pure Alpha, lauréate du premier prix Jeune Entreprise. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité, Aram, à postuler à ce concours au départ?
Alors, c'est un vrai concours de circonstances, on va dire.
Parlez bien en face. Oui.
Voilà, c'est un vrai concours de circonstances parce que j'avais vraiment pas prévu. J'ai reçu un mail dans ma boîte en disant, voilà, concours les entrepreneuriats de Plaine-Vallée, l'agglomération. Je me suis un petit peu intéressée, puis j'ai dit, oh non, c'est pas pour moi.
Pourquoi?
Mais parce que, je sais pas.
Le syndrome de l'imposteur.
Voilà, c'est un petit peu, beaucoup même. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. J'ai laissé un petit peu mariner, puis j'en ai parlé à mon époux, et qui m'a dit, mais non, vas-y, tu ne risques rien, au fond, hein, c'est juste. Et en fait, ce qui m'avait vraiment intéressée dedans, c'était toute la partie accompagnement. J'arrivais à un point, dans mon projet où j'étais seule, à travailler devant mon ordinateur, tous les jours, vraiment, très très investi dans mon projet, et pour autant il me manquait quelque chose. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin et je le trouvais pas. Et je me suis dit, ah, il y a quand même 2 semaines de coaching, si au moins je peux décrocher ça, ça serait génial. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée in fine à postuler. Et donc j'étais très surprise quand j'ai reçu le mail en me disant, votre projet a été sélectionné. J'ai fait waouh, j'étais vraiment très très heureuse. Voilà. Pour le coup,
merci,
surprise. Oui, merci de m'avoir poussée. Voilà. Et j'ai postulé, j'ai reçu le et donc avec beaucoup d'impatience j'attendais ces 2 semaines-là. J'ai pas vraiment pris conscience qu'il y avait un concours derrière, qu'il fallait passer devant un jury. Et quand j'ai commencé à prendre conscience, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi je me suis lancée dans ce projet? Pour moi, c'était bien d'avoir les 2 semaines, mais aller pitcher devant un jury de personnes qui sont bien, qui ont du recul dans le monde entrepreneurial et tout, c'était autre chose. Ça, c'était beaucoup plus compliqué, mais voilà, la raison
voilà,
pour laquelle...
vous avez bien fait, en tout cas, de postuler. Et sinon, vous, votre parcours, Aram, quel est-il?
Alors, à la base, je suis consultante RH depuis quelques années. J'ai travaillé pendant 20-25 ans dans la gestion administrative de petites et moyennes structures. Toujours en tant que salariée, jamais en tant qu'entrepreneur. Et l'idée de Pure Alpha, c'est venu un petit peu de mon parcours personnel, de maman d'un enfant en situation de handicap. Donc, pour reprendre un petit peu, je ne sais pas si c'est la
première
question.
Allez-y, oui, bien sûr, oui, parce que j'allais vous demander de nous présenter Pure Alpha, absolument.
Donc, Pure Alpha, c'est une société de service à la personne qui est exclusivement dédiée aux enfants en situation de handicap, enfants et jeunes adultes, parce que j'ai envie de suivre un peu le parcours de mon fils qui a déjà 17 ans, donc il est plutôt ado, et donc j'ai de 0 à 25 ans. L'idée, c'est d'accompagner les parents lorsqu'ils ont besoin, dans des moments de vie à domicile, pour prendre en charge l'enfant, pour un moment de répit, de soutien. C'est le but, c'est vraiment d'apporter du soulagement aux familles, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement.
Oui.
Je me suis rendu compte que j'avais peu de soutien à des moments de ma vie où j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un juste pour pouvoir, moi, ne serait-ce que, allez, je vais donner un exemple bateau, hein, aller chez le coiffeur sans mon fils qui était à la maison, prendre un petit peu de temps ou m'occuper de ses frères et sœurs parce qu'il a j'ai d'autres enfants. Donc tous ces petits moments-là où je me suis rendu compte que j'avais personne parce que mon mari lui travaillait, que moi parfois j'ai dû mettre pause dans ma vie professionnelle pour pouvoir m'occuper de mon fils qui n'avait pas de solution de garde permanente. Encore une fois, merci, il est maintenant en institut et c'est juste, ça change la vie, le fait qu'il soit en institut, ça donne un peu de répit dans la journée, n'empêche que les parents ont quand même besoin, avant d'aller en institut, ou le soir, ou les week-ends, de cette aide-là. Et Pure Alpha, l'idée, c'est d'apporter aux parents ce soutien-là. Voilà.
Parce que donc, vous, en faisant le tour de ce que vous avez vécu, le soutien que vous créez aujourd'hui n'existait pas.
Alors, il existait, mais peu structuré, je dirais. En fait, pas exclusivement dédié aux enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, les sociétés de services à la personne, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, d'ailleurs. C'était une grande question au moment où je me lançais. Je me disais, est-ce que tu vas pas dans... Mais non, il y en a beaucoup. Déjà, il y a beaucoup de demandes. Je pense pas que l'offre aujourd'hui soit suffisante, qu'importe. Et les sociétés, en général, sont généralistes. Elles vont faire des personnes âgées, elles vont faire des personnes dépendantes aussi, elles vont faire du ménage, elles vont faire
un cap comme vous êtes en train
Moi, je veux rester exclusivement sur le handicap de l'enfant, parce que je sais qu'il y a un réel besoin. Aujourd'hui, en France, pour accéder à un institut un institut spécialisé médico-éducatif, il y a un délai d'attente qui peut aller jusqu'à 7 ans. Donc les parents sont sans solution. Et même quand les enfants sont en institut, on a un besoin. Si on veut avoir une vie sociale, si on veut continuer à travailler, ce qui est essentiel pour le bien-être aussi des familles, des parents. Je parle des aidants en général. Hein, j'utilise le mot famille-parents, mais je parle des aidants en général. Pour avoir ce répit-là, on a besoin d'avoir du soutien aussi à la maison. Donc Pure Alpha ne vient pas à l'encontre de ce qui se fait, elle vient en complément, vraiment pour apporter l'aide où il n'y en a pas, ou pas suffisamment du moins.
C'est ça, vous avez dans l'objectif de professionnaliser réellement l'accompagnement à domicile.
Voilà, c'est
ça.
Qui
aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas.
Oui, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des professionnels dans le secteur du handicap. On sait que c'est un gros sujet, il y a un gros travail. Encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants vont en Belgique, où c'est beaucoup plus développé, professionnalisé, et je trouve quand même que c'est... Allez, c'est pas normal, pour ne pas utiliser le mot honte, c'est pas logique.
Moi j'ai eu l'occasion de faire une émission c'était avant à l'automne, puisqu'il y avait les journées du handicap, et j'ai pu interviewer Dominique Gillot qui a été ministre délégué justement au handicap. Voilà, c'est une personne qui est très investie. Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, mais peut-être
encore.
Que ça vaudrait le coup que vous la rencontriez.
Peut-être un jour,
Oui, parce que c'est toutes ces institutions, la MDPH, qui font quand même beaucoup.
Oui.
Malgré tout, n'arrive pas à offrir ce que vous allez proposer.
Moi, je dis toujours que on va pas cracher dans la soupe qui nous nourrit. En gros, ce qui existe aujourd'hui en France, la législation, tout est en faveur du handicap et du développement. Mais seulement, c'est la mise en pratique qui pose problème. Aujourd'hui, on trouve peu de professionnels, comme pour revenir à la professionnalisation, peu de professionnels dans le handicap, difficulté à recruter. Après, il y a tout ce qui part autour de la rémunération. Moi, je vois à l'IME de mon fils, ils ont beaucoup de mal à recruter des kinés, des ergothérapeutes. C'est compliqué. C'est qu'il y a quelque part, il y a un décalage entre le besoin qu'il y a et aussi l'effort financier, parce que souvent c'est lié à ça, hein, que l'on veut mettre dans... Il n'y a pas que ça, mais c'est lié à ça. Et l'idée pour moi, pour Pure Alpha, c'est de permettre à la base de former des intervenants qui sont pas forcément déjà du milieu, mais qui ont cette appétence pour le handicap, qui ont cette fibre, qui ont cette petite vocation là, ou l'envie simplement de donner quelque chose à l'autre, parce qu'il faut être très humain pour travailler. Alors franchement, je trouve pas normal, je le dis souvent, qu'on puisse payer une personne qui s'occupe d'un enfant comme quelqu'un qui va travailler ailleurs, quoi. Enfin, je veux dire, dans certains milieux, enfin, c'est pas logique. C'est des personnes qui s'investissent énormément. Ça demande plus que de simplement travailler.
Pas suffisamment payées,
vraiment pas. Et ça pose un gros problème. Donc, je ne vais pas révolutionner les choses, mais en tout cas essayer d'améliorer. Alors là, c'est mon côté RH qui va parler. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a aussi donner envie aux gens de travailler avec des personnes en situation de handicap. Lever les barrières, les peurs, les incompréhensions. Il y a plein de choses à faire. Et tout ça, ça passe par la formation, en disant, voilà, une situation difficile, quand on la connaît et qu'on sait comment réagir, elle devient plus simple à gérer. Voilà, il y a un gros travail derrière.
C'est ce que nous disions avec Dominique Gillot. Travailler avec le handicap, il ne faut pas en avoir peur, parce qu'au contraire, ça apporte beaucoup de richesse.
Énormément. Et j'ai un bel exemple pour ça. Déjà, l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école, ça permet aux autres enfants de découvrir ce que c'est le handicap, de découvrir la différence, d'appréhender mieux, de se dire, en fait, il ne me fait pas peur, il est sympa. Et moi, je sais que mon fils, il a eu l'occasion d'aller quelques fois à l'école de Pisco, de mon petit village, et ça lui a été, mais pour les autres enfants et pour lui-même, parce qu'il y a ce côté aussi d'avoir des relations, enfin de pouvoir sociabiliser un petit peu, ça lui a apporté énormément, mais aux autres enfants aussi. Et j'ai eu le retour des parents, quelques-uns qui m'ont dit, mais c'est génial d'avoir votre enfant en classe, parce que nous, le soir, quand nos enfants y rentrent, ils en parlent. Et
bien oui, bien sûr.
Et voilà, il y a quelque chose
De fort. Est-ce que c'est indiscret, Aram, de vous demander quel est le handicap de votre fils ?
Non, pas du tout. Alors, pour le coup, on le sait depuis pas très longtemps. En début d'année 2025, on a enfin pu porter un nom sur son handicap, qui est le syndrome PURA. D'accord. Alors, aller dans le détail technique, je pourrais pas, mais en fait, en gros, c'est un problème génétique où il a une déficience de la protéine Pure Alpha, d'où le nom de la société Pure Alpha.
Très bien.
Voilà.
Oui,
c'est un petit clin d'œil à la maladie de mon fils. Donc, pendant des années, on n'a pas su ce qu'il avait. On vivait au jour le jour avec un petit peu le quotidien, en gérant les symptômes, sans savoir exactement ce que c'est, mais vraiment de savoir, ça nous a...
Et d'avoir posé, ça va peut-être permettre un traitement ou...
Alors, pas du tout, pas de traitement, mais mieux comprendre la globalité, de quoi il a besoin, quels sont les vrais symptômes, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, comment mieux l'aider. C'est très peu connu, il y a 500 cas dans le monde, peut-être parce que c'est pas détecté non plus depuis très longtemps, ça fait que depuis 2014 qu'ils connaissent le syndrome.
Aram, tout ce que vous nous dites est passionnant, je propose qu'on fasse quelques minutes de pause avec Mylène Farmer, cette fois sans contrefaçon.
Marcherons plus ensemble. Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct et ce matin, focus sur les entrepreneuriats des, et les lauréates sélectionnées au mois de novembre. Nous avons commencé une interview avec Aram Bouga, premier prix jeune entreprise pour Pure Alpha. Aram, votre parcours est quand même impressionnant hein, et bravo pour tout ce que vous faites.
Merci.
Aujourd'hui, vous êtes dans quelle phase de votre entreprise ?
Alors, mon entreprise est créée, donc j'ai gagné le prix jeune entreprise, donc créée déjà depuis juillet. Je viens de faire le dépôt de ma demande d'agrément auprès de la DETS, parce que bien sûr, l'activité est soumise à un agrément
bien
et
sûr.
C'est tout à fait normal. Hein, il y a des exigences minimales, il faut répondre à ces exigences du cahier de charge. Et donc, le dépôt est fait, il n'y a plus qu'à attendre, mais une fois que j'ai la réponse, j'espère positive. Je pourrais lancer enfin l'activité et pouvoir proposer mes services de façon plus concrète.
Oui, oui, oui. Et donc, il va falloir construire la confiance avec les familles.
Tout à fait.
Là, justement, vous avez parlé de bien-traitance, le suivi, la traçabilité, vous avez déjà tout mis en place ?
Ah oui, absolument, parce que de toutes les façons, je ne peux pas faire la demande d'agrément sans avoir pensé à tout ça en amont. Le travail, il est fait. C'est aussi de m'inspirer beaucoup de ce que moi j'ai vécu et de ce que j'aurais aimé. Qu'on me propose à moi ce que j'ai pas trouvé
oui, votre vécu
justement
va
voilà
nourrir,
tout à fait
votre association enfin votre entreprise
voilà pardon. C'est ça tout à fait et donc l'idée c'est vraiment de me servir de ça de bon bien sûr de répondre aux exigences qui sont bien déterminées bien écrites dans le cahier de charge et d'apporter une solution moi je dirais plus personnalisé parce qu'on répond à des besoins différents. C'est pas le handicap, c'est pas une généralité. Il y a une spécificité chez chaque enfant. Allez essayer de la chercher et d'y répondre au mieux.
Donc, une fois que vous aurez cet agrément, vous allez lancer les formations ?
Oui, il faudra recruter, former. Alors là, j'ai tout un travail aussi en attendant d'avoir la réponse, de trouver un organisme partenaire pour monter une formation de 15 jours, parce que c'est ce que je veux, pour pouvoir préparer au mieux les futurs intervenants à leur mission.
Très bien.
Et après, il y a un accompagnement en formation continue derrière. Donc, si le handicap nécessite, par exemple, je prends un exemple, un trouble autistique sévère, si ça nécessite d'avoir une formation en plus, de pouvoir apporter ça à l'intervenant pour qu'il soit armé pour aller, vraiment, pour le meilleur service possible.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Et est-ce que des organismes comme la CAF pourraient être vos partenaires à
Tout à fait. En fait, oui. Moi, aujourd'hui, toutes les institutions, la MDPH, la CAF, les CCAS, les mairies, enfin, toutes les institutionnelles qui ont forcément un lien avec le handicap peuvent être des partenaires potentiels. Au contraire, et je veux m'appuyer sur eux parce qu'ils ont déjà l'expertise. Je reste une nouvelle société. Je viens avec un projet et j'espère pouvoir me faire aider par tous, oui.
Bah, écoutez,
y compris aussi tous les partenariats développés grâce à 14K et les entrepreneuriats d'initiatives.
Non, vous le souhaite. C'est vraiment un magnifique projet et on comprend pourquoi vous avez été sélectionné premier prix jeune entreprise.
Merci
Qu'est-ce
beaucoup.
Que ça représente pour vous alors, du coup, ce prix ?
Alors, une visibilité et alors déjà, j'avais besoin d'avoir ce regard externe parce que, comme je disais, c'est un travail que je faisais toute seule et d'avoir l'aval de 14K Initiative Pleine Vallée de l'Aglo. Mais c'est juste incroyable. Je me dis, mon projet, il a vraiment du sens parce qu'on en est convaincu, certes, mais c'est pas forcément suffisant.
C'est pas d'autosatisfaction.
C'est ça, exactement. Et donc, cette crédibilité-là et surtout la visibilité. Le réseau, le soutien, le coaching, le mentorat, le fait de faire partie de la pépinière 14K maintenant, je sais que je vais pouvoir aller taper au bureau au voisin en disant voilà. Non, mais c'est tout un environnement qui va faire que forcément, je serai aidée, accompagnée et ça n'a pas de prix.
Bah écoutez, en tout cas, félicitations à nouveau pour cette création hein, d'entreprise qui, je pense, va cartonner. On en est persuadé. On va vous suivre et puis s'assurer que ça fonctionne bien.
Merci
aussi pour votre engagement auprès des familles, des enfants et puis. On sent que vous avez une vision exigeante et humaine hein, du service à la personne. Donc,
oui, merci tout à fait. Merci beaucoup.
On marque une nouvelle pause et cette fois, je vous propose d'écouter Zazie et qui nous accompagne avec Rue de la Paix.
Je vends mon moto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Pour mettre un hôtel rue de la Paix. Pour mettre un hôtel rue de la Paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. On a bien mérité de toucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la communauté. Je passe à l'action quitte à monopoliser l'attention et rester quelques tours en prison.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio avec à mes côtés Mama Conté, chef de projet événementiel d'Initiative 95-78, Julie Martineau, chargée de mission entrepreneuriat, Aram Bouga, fondatrice de Pure Alpha, premier prix jeune entreprise, Charlène Okumu, fondatrice de Madia Madia, et Malia Toussaint, fondatrice de Nivar. Charlène, focus sur vous, donc fondatrice de Madia Madia, lauréate du premier prix créateur d'entreprise.
Exactement.
Charlène, quelques mots sur vous?
Alors, oui, comme vous l'avez bien dit, Charlène, donc effectivement fondatrice de Madia Madia. Mon parcours, c'est que moi, ça fait 10 ans à peu près que je suis dans les médias, plutôt en agence média. Donc, j'accompagnais plusieurs annonceurs dans leur stratégie plurimédia pour pouvoir soit accroître de la visibilité ou bien simplement développer leur business. Parallèlement à ça, j'avais une grande passion qui était du coup le digital. Donc, j'accompagnais aussi à côté des blogueurs culinaires et notamment africains à développer leur notoriété sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'en fait l'idée est née. Parallèlement à ça, j'avais aussi un gros problème, une problématique personnelle, qui était que moi qui adore manger et notamment africain, je ne savais pas tout simplement faire.
Vous saviez pas cuisiner.
Je ne sais pas cuisiner et je pense que c'est propre aussi à ma génération du coup Y, qui est généralement issue il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la double nationalité, double culture, qui font que, en fait, on souhaiterait s'approprier en fait cette cuisine, et mais on ne sait pas faire.
Parce que vous n'aviez pas autour de vous une maman, une grand-mère.
Non, j'avais une maman. Le problème, c'est que quand je lui demandais la recette ou je lui disais, tu peux m'apprendre ça, ça partait tout de suite en guerre mondiale. donc on s'est dit, comment faire?
Elle était jalouse de son savoir-faire.
Exactement.
Savoir
c'est surtout, faire. C'est que, en fait, faut savoir une chose. C'est que la cuisine africaine et la cuisine, on va dire même caraïbienne, ce sont, en fait, des cuisines qui s'apprend, en fait, par la pratique.
Oui.
Par le savoir-faire.
Il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas réellement de recettes
ou bien
de grands livres de recettes où on pourrait s'appuyer. Et c'est vrai que c'est là que le projet est un peu né en disant moi aujourd'hui si j'ai envie de manger autre qu'un mafé ou un couscous parce que effectivement il y a un vivier en fait de plats qui sont méconnus malheureusement, je ne sais pas faire. Et que malheureusement on se rend compte que cette cuisine en fait est en train de disparaître en fait avec nos mères, nos grand-mères. Donc c'est un savoir et un patrimoine en fait culinaire qui est en train de disparaître peu à peu. Et c'est là où j'ai le déclic en me disant oui, il y a urgence en fait tout simplement de conserver cet héritage culinaire, de préserver mais aussi quelque part de le moderniser. Comme je vous le disais au départ, moi issue de la génération du coup Y, ayant une double culture, j'ai cette culture effectivement occidentale. Je sais très bien faire un gratin dauphinois, j'ai aucun problème avec ça. Mais je ne sais pas faire, comme on dit chez nous, un pondou ou sakasaka, pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit, comment on va faire pour pouvoir conserver, le structurer, mais quelque part aussi le moderniser, de manière à véhiculer ça à d'autres personnes. Et que ça parle beaucoup, du coup, à la diaspora africaine, bien sûr, mais pas que. Parce que moi, issue aussi de... ça parle beaucoup de mon expérience personnelle. Hein. Issue, du coup, d'un couple mixte. Moi, j'ai mon mari qui est franco-italien. C'est vrai qu'il a tendance à mélanger un peu les plats, et c'est très bien. Et de se dire, lui faire découvrir
en fait, cette culture. Curry.
C'est ça. Lui faire découvrir cette culture, ces plats, c'est fait qu'effectivement, ça crée en fait une cuisine, ce qu'on appelle une cuisine fusion, ça parle à tout le monde. Mais ça permet de faire évoluer, du coup, tout simplement la cuisine. Donc, je me suis dit, oui, il y a cette urgence à centraliser, à conserver ce patrimoine qui tend à disparaître, mais il y a aussi un côté à moderniser en fait cette cuisine, à la laisser vivre et à la laisser effectivement, il faut qu'elle soit découverte en fait par le plus grand nombre. Donc c'est comme ça qu'est né tout simplement Madia Madia, parce que à côté de ça,
Madia qui veut dire
glouton à Kikongo.
Ah, très bien.
Je suis originaire du coup de Congo Kinshasa et Madia Madia c'est une expression qui est beaucoup utilisée du coup là-bas et notamment on le donne à des enfants, ce qu'on appelle, ça veut dire glouton tout simplement.
Oui, arrête quand de faire ton Madia Madia.
Exactement. Quand on a un enfant, généralement on aime bien manger. Et moi, c'est comme ça que ma mère m'appelait, Madia Madia, dès que je mangeais, donc j'aimais ça. Et puis, c'est vrai que c'est resté. Et c'est un mot qui parle à beaucoup de monde. Et c'est facile à retenir.
C'est pour ça que je
l'ai utilisé. Donc, voilà.
Alors, décrivez-nous Madia Madia. Qu'est-ce qu'on trouve? Comment ça fonctionne?
Madia Madia, du coup, c'est une plateforme, tout simplement, qui va centraliser l'intégralité, pour le coup, des recettes africaines des 54 pays, et bien sûr caraïbiennes aussi, parce que ça fait partie aussi de l'histoire. Et l'idée, c'est simplement de mettre à disposition des recettes traditionnelles, mais pas que. L'idée, comme je vous l'expliquais, la cuisine, ça tend à évoluer. C'est un peu comme le langage, en fait. Mmh. Ça évolue au fur et à mesure des temps. Et de proposer derrière des recettes aussi, fusion, mais pas que, un contenu éditorial qui permettrait de mettre enfin en avant du coup cette cuisine malheureusement qui est victime un peu de préjugés. Pour ceux qui connaissent pas ou connaissent peu, on va souvent dire que la cuisine africaine ou afro-caribienne, on va dire ça comme ça, est soit grasse ou trop épicée.
Trop épicée,
on
oui,
va dire
oui,
c'est pas épicée, c'est pimenté.
Oui, oui, oui.
Et derrière en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que la cuisine justement afro-caribienne, c'est une cuisine qui est vachement tournée vers tout ce qui va être économie circulaire. Ça va être tourné justement sur le manger sain, manger bien. On est sur de l'anti-gaspillage.
Avec des produits frais.
Et avec des produits frais, des produits bruts. Et généralement, on va manger, quand on va consommer un produit, on va le consommer dans l'intégralité. On va le transformer. Et généralement, 80% des plats
africains sont composés voilà de légumes, très peu de féculents, de beaucoup de poissons. Donc c'est tout ça qu'en fait qu'avec Madia je souhaiterais en fait tout simplement mettre en valeur et pouvoir redonner à cette cuisine malheureusement qui est peu connue la remettre sur le même pied d'égalité qu'une cuisine aujourd'hui qui sont très démocratisées type la cuisine asiatique ou la cuisine indienne. Donc voilà l'idée de Madia.
Donc et alors aujourd'hui où en êtes-vous de cette plateforme?
Alors aujourd'hui justement je suis dans la finalisation de la collecte du coup des 10 000 recettes parce que c'est quand même c'est fastidieux parce qu'il faut les structurer malheureusement on va les regrouper, les structurer, les moderniser parce que dans ces cuisines là généralement il y a peu de grammage. On n'est pas très ça demande un peu une certaine rigueur, une certaine exigence. C'est vrai que ça me fait toujours rire quand j'en parle des fois à tout le monde quand je suis en train de collecter des recettes et généralement on en voit pas mal sur les réseaux sociaux etc. Donc on va avoir les recettes. Par contre, on va voir la personne qui va vous expliquer la recette, mais en même temps, elle va vous parler de son fils. Elle va vous parler de la politique. Elle va vous parler notamment de la religion. Mais par contre, on n'est pas concentré sur la recette et généralement, on n'a jamais le grammage. Donc, c'est un peu d'eau, un peu de ça, un peu de ci. Et l'idée, c'est vraiment pour aider, en fait, même les futures générations, ou bien les personnes qui souhaitent tout simplement connaître cette cuisine, aider tout simplement à la structurer, à faciliter, en fait, l'accès à cette cuisine. Et donc, c'est pour ça que, voilà, Madia va être là pour faire un peu, j'aime bien dire ça, mais parce que ça parle à tout le monde, un peu comme, voilà, ce qu'on a aujourd'hui, des plateformes occidentales, type un Marmiton à 750 grammes, c'est facile, on y va, on a la recette, on la fait, on l'applique. Pour les cuisines africaines, aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire.
En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si, par exemple, moi, demain, je vais faire un yassa, je tape yassa et je vais tomber sur la plateforme Madia.
Exactement.
C'est ça.
L'idée, c'est ça. C'est tomber sur la plateforme et vous avez tous les ingrédients avec tous les grammages. Et très important aussi, c'est vrai que c'était une problématique aussi lors de la création de ce projet, c'est de savoir où trouver en fait les ingrédients. C'est un gros problème aujourd'hui.
Même s'il y a quand même une démocratisation.
Il y a une démocratisation. Maintenant, l'idée de se dire, c'est que il faut travailler aussi. Voilà, on peut manger africain, caribéen, on va dire ça comme ça, en utilisant en fait des produits tout simplement, des produits locaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un tilapia, par exemple, on peut remplacer un tilapia par une dorade. La dorade, on va la trouver chez notre poissonnier du coin. Donc l'idée, voilà, c'est aussi de faire en fait
de rendre accessible,
mais aussi un travail pédagogique autour de cette cuisine, de manière à la fois de la découvrir, la démocratiser, mais aussi en tant que personne issue de la diaspora, de se dire, ben il y a une autre manière, une autre façon aussi de consommer. On n'est pas obligé d'aller dans des lieux où on a tendance effectivement à utiliser, on va dire, des mets qui viennent d'ailleurs, notamment d'Asie, ce qui n'est pas forcément bon. Et de se dire, en fait, au niveau régional, au niveau national, au niveau local, on a des producteurs qui ont la possibilité de nous fournir des produits de qualité et frais.
Charlène, 10 000 recettes, donc évidemment, vous ne pouvez pas toutes les réaliser. Est-ce que vous en avez quand même cuisiné certaines?
Bien sûr.
Oui. Avec succès.
On va dire le standard. Les standards. Oui, j'en ai effectivement cuisiné certaines. Après, le succès, et c'est ça qui me pousse aussi à faire découvrir cette cuisine, c'est que c'est excellemment bon. C'est très bon. Donc, et généralement, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire des espèces de dîner expérience avec mes amis issus de toutes régions, origines différentes, régions différentes, etc. Et je leur fais découvrir en fait cette cuisine et généralement on me dit, mais c'est vachement bon en fait, mais pourquoi on connaît pas? Ah, mais je pensais que c'était beaucoup plus gras. Ben non, en fait, au lieu d'utiliser l'huile de tournesol, on va beaucoup utiliser l'huile d'olive par exemple. Mais ça, tout le monde ne le sait pas. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de changer vraiment les mentalités.
De changer de paradigme.
Exactement.
Donc une alimentation, un outil de transmission culturelle et identitaire.
Exactement.
Et une alimentation responsable en économie circulaire.
Exactement.
Ouais, très bien. Vous pensez que les médias doivent jouer leur rôle dans la valorisation de ces cultures africaines?
Complètement. Je pense que justement, on a tendance à, comme je vous disais, hein, cette cuisine, elle est malheureusement victime de pas mal de préjugés, ou bien est méconnue. Depuis maintenant quelques années, on a la chance d'avoir justement des chefs d'origine africaine qui sont là justement pour porter un peu voilà cette cuisine là. Je pense à Amaury par exemple, Sako,
oui.
Qui est chef étoilé et qui aujourd'hui fait un peu
le pas vraiment africain non
par,
plus.
Une hein. cuisine pas vraiment africaine, mais par contre il ajoute des produits africains. Oui. dans ces plats, et ça c'est ça qui est intéressant. Donc l'idée, c'est pour ça que je veux parler de cuisine fusion, l'idée c'est de se dire que aujourd'hui en fait la cuisine africaine peut se mixer avec pas mal de cuisines occidentales, italiennes, asiatiques. Donc je reprends Amaury Sako par exemple a tendance à utiliser par exemple le beurre de karité.
Ah oui,
dans ses plats plutôt que de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Donc, et quelque part, donc, rajoute cette touche d'originalité. Ouais. Donc voilà, et je dis surtout pour les médias, c'est de nous aider, en fait, tout simplement à valoriser cette cuisine. Et pas que au-delà de la cuisine, en fait, c'est un, on va dire, un projet, on va dire même culturel.
Oui.
C'est-à-dire que le fait de porter
c'est ça, ça va au-delà de la
ça va au-delà de la cuisine simple, ça va au-delà même de la plateforme simple où on va se dire c'est juste une plateforme culinaire. Non, c'est une identité en fait. Et la cuisine fait partie de l'identité.
Bien sûr.
Et au vu en fait même aujourd'hui des générations, c'est pour ça que ça m'a beaucoup frappé de le faire et c'est important pour moi de le faire aussi parce que ça fait partie de ma culture. Ça fait partie de ma double culture et le fait de le marquer, de le marteler, ça permet aussi voilà d'être bien dans son d'accepter qui on est quelque part.
Oui.
Et le fait d'accepter qui on est, ça passe aussi par ça.
Oui.
Et le fait de créer aussi la cuisine crée du lien et ça permet de casser en fait ces barrières et fédérer une personne qui ne connaît pas par exemple. On a peur de l'inconnu. Aujourd'hui, si on fait des repas, ce genre de choses, un peu, on se réunit autour d'un repas. Généralement, on casse un peu ces barrières parce qu'on se dit ah moi je savais pas que vous mangez ça, mais moi aussi en fait de mon côté, on peut faire comme ça, comme si. Donc ça permet de
fluidifier les choses. Ça crée des liens, des liens supplémentaires.
Et par exemple, si je prends un exemple aux États-Unis, je prends beaucoup cet exemple aux États-Unis, quand on souhaite par exemple dealer. Une affaire, généralement, ça se passe souvent autour d'un repas.
Oui, bien sûr. En France aussi, quand même.
En France aussi, on va d'abord parler, on va d'abord manger et puis après on va discuter. Mais c'est vrai que pour l'avoir fait aux États-Unis, généralement, ce qu'on fait, c'est que on va dealer en même temps qu'on mange et c'est plus agréable, c'est plus facile. Voilà.
Charlène, de quel soutien avez-vous besoin aujourd'hui pour structurer et faire grandir votre projet?
Aujourd'hui, j'ai
déjà besoin... vous avez été lauréate, hein, donc
oui, c'est vrai.
Premier prix créateur d'entreprise.
Oui, et je remercie beaucoup du coup Initiative et 14K parce que petite parenthèse, moi ça va faire plus d'un an et demi aujourd'hui que je suis accompagnée par Initiative et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert le concours. On m'a dit bah écoute vas-y, ça mange pas de pain. Essaye, on trouve ton projet hyper original. Donc voilà, je me suis dit bah ok, pourquoi pas. Et je suis un peu comme Aram. Moi, j'ai fait ce concours surtout parce que j'en avais un peu marre de la solitude. J'arrivais à un point où effectivement j'avais le projet, je l'avais structuré. J'avais un besoin d'aller de l'avant, j'avais un besoin de me challenger, j'avais un besoin d'être accompagnée et surtout j'avais besoin aussi d'avoir une validation un peu du projet, mais pas que, mais aussi d'un jury, de professionnels qui me disent ok, c'est le projet est viable, il tient la route. C'est vrai qu'on se dit bon bah moi ça, on va parler d'une plateforme culinaire, c'est super, comment je vais faire pour pouvoir effectivement le rendre viable, le rendre crédible et aller au-delà simplement du fait de dire que c'est juste une plateforme culinaire. Il y a plein d'autres messages derrière en fait.
Donc quand est-ce qu'on peut consulter Madia?
On pourra le consulter, je croise les doigts. d'ici quelques mois. Alors voilà, c'est un projet qui est difficile dans le sens où créer une plateforme.
Il y a beaucoup de travail.
Il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup de respect, on va dire, de l'univers web du coup à checker, à cocher. Et donc d'ici quelques mois, j'espère que vous pourrez enfin découvrir Mania Madia et effectivement qu'elle puisse casser toutes les frontières et que ce soit pas qu'au niveau national, local, mais que ça parle aussi à l'international. C'est le plus important.
Beaucoup d'ambition. Bravo Charlène Okumu, donc fondatrice de Mania Madia. Nous, on est impatients de que la plateforme ouvre et puis pour avoir les recettes. Merci en tout cas de faire de la cuisine un espace de mémoire, de fierté culturelle et de lien social.
Merci à vous.
Nouvelle pause et Bubble Star par Laurent Voulzy.
J'ai mis ma vie à la gomme dans des guitares bubblegum. Ça paillait à mort dans mon décor. J'ai mis mon cœur pauvre bonhomme dans un joli métronome. J'ai quitté mon maillot de corps, qu'on voit mon corps. Écoute un peu la 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 la. Regarde un peu la 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 la. J'ai ramé pendant 10 ans dans un bureau pas marrant. Ils vont voir comme ça balance dans les assurances. Laissez passer le chanteur, celui qui est si beau en couleur. Envoyez la lumière et laissez-moi faire. Écoute un peu la 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 la. Regarde un peu la 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 la. Papa, maman, c'est votre enfant, ce ballon gonflé, ces bulles de papier doré. Maman, papa, ne risque-t-elle pas ces bulles qu'on zoom un jour de faire boum. Je les mettrai plus jamais, mes pantoufles et mon béret. Faut changer de costard pour faire la star. Je passe des mimines, ça c'est chouette, et je fais des minominettes. Toujours complet, ça c'est beau dans mon dodo. Écoute un peu la 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 la. Regarde un peu la 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 la.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et on va aborder la dernière ligne droite de cette émission qui jusqu'à présent nous a permis d'écouter Mama Conté, Julie Martineau, Aram Bouga, Charlène Okumu. Et je donne maintenant la parole à Malia Toussaint, donc fondatrice de Nivar. Alors vous, Malia, vous êtes dans un domaine complètement différent de Charlène et puis Aram. Vous abordez la reconnaissance des compétences et l'après-mandat des élus. Voilà, c'est votre projet. Les élus CSE, donc expliquez-nous les élus CSE.
Alors, bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir invité déjà. Alors, mon projet qui s'appelle Nivar... c'est une plateforme qui compte valoriser les compétences des élus du CSE. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, le CSE, c'est le Comité Social et Économique de l'entreprise.
D'accord.
C'est une instance unique à l'intérieur de l'entreprise qui fait le lien entre les salariés et la direction. Donc ça a été mis en place pour vraiment défendre les intérêts collectifs de l'entreprise, mais également les intérêts des salariés. Donc le but de la plateforme, c'est de permettre aux élus de tracer et de valoriser toutes les compétences qu'ils vont développer au cours de leur mandat. Puisqu'il faut savoir qu'un mandat d'élu du CSE dure en moyenne 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, ils vont développer des compétences en gestion de crise, en négociation, en relations sociales. Il y a beaucoup de compétences qui sont développées. Et malheureusement, on a constaté qu'à la fin du mandat, toutes ces compétences-là sont complètement perdues, invisibles. Et donc, malheureusement, l'élu n'est pas en capacité de valoriser cette compétence-là sur son CV. Et donc, le but de la plateforme, ça va être vraiment de transformer toutes les actions qui vont être réalisées en temps réel pendant tout le mandat, donc les 4 ans, en compétences certifiables. Ce qui va permettre à l'élu de valoriser ce parcours-là, son parcours d'élu. Ce qui va lui permettre également ce qui va faciliter une mobilité interne au sein de l'entreprise. Faciliter aussi une VAE s'il le souhaite ou une reconversion professionnelle. Parce c'est qu'à ça. La fin du mandat, malheureusement, pour ceux qui sont élus, très souvent, au début du mandat, ils sont sur un poste. Donc, pendant les 4 ans, ils vont être, pour certains, détachés, donc ils vont devenir permanents. Et pendant ces 4 ans, ils vont se consacrer complètement aux autres, à défendre les intérêts des salariés. Et malheureusement, à la fin du mandat, ils retournent à leur poste initial. Il faut savoir que 4 ans, c'est long.
C'est long.
En 4 ans, on peut avoir des collègues qui vont éventuellement évoluer à votre place. Et donc, moi, je trouve que c'est injuste.
Oui.
De consacrer 4 ans aux autres et de se retrouver en bas de l'échelle, si je peux le dire comme ça, sans pouvoir valoriser.
Sans avoir pu valoriser son expérience.
Exactement.
Vous-même, vous êtes passé par cette situation.
Alors non, Alia, du tout, c'est mon compagnon.
C'est votre
compagnon. Qui a malheureusement connu cette problématique là, puisqu'il est élu du CSE depuis à peu près 6-8 ans.
Ah oui, donc on peut renouveler son mandat.
Oui. On peut. D'ailleurs, ça a été adopté il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, on pouvait cumuler jusqu'à 3 mandats de 4 ans. Et depuis quelques semaines, ils ont supprimé cette limite. Donc, c'est à l'infini.
Ah, d'accord. Donc
on peut se représenter à l'infini.
On peut penser quand même que justement l'expérience acquise permette de se représenter
oui, bien sûr.
De finir sa carrière
exactement.
Aussi en tant qu'élu CSE.
Exactement.
Oui.
Exactement. Et donc c'est mon compagnon effectivement qui a fait face à cette difficulté. Donc il est élu du CSE depuis plusieurs années et il a été élu secrétaire du CSE et donc il a pris ses fonctions, ça s'est très bien passé. Et malheureusement dans le milieu syndical il y a entre guillemets des guerres hein, forcément. Il a été révoqué par un syndicat qui s'est allié avec un autre.
Ah. Oui.
Et malheureusement, à l'issue de cette révocation, là, il a dû être convoqué pour l'entretien de fin de mandat avec la direction et les RH. Et il s'est retrouvé à entendre cette phrase en lui disant, monsieur, votre mandat votre fonction de secrétaire du CSE est révoqué. Donc vous devez retourner à votre poste de travail. Mm-hmm. Malheureusement, c'était, inaudible, si je peux le dire, c'est inacceptable de se dire mais comment retourner à mon poste de travail en sachant que j'ai passé des mois, des années à défendre les intérêts des autres. Et donc il s'est dit il faut que j'évolue. Donc il a demandé une mobilité interne qui malheureusement lui a été refusée puisqu'il n'était pas en capacité de démontrer.
C'est ça, de prouver ses compétences.
Exactement. Et c'est là que ma casquette est arrivée puisque je suis formatrice en gestion d'entreprise et consultante en bilan de compétences. Mm-hmm. Donc je me suis retrouvée à lui rédiger un document en disant qu'en qualité de consultante en bilan de compétences, j'ai analysé son parcours, son CV, plus sa fonction de secrétaire et que en fonction des éléments, des compétences qu'il a pu acquérir, aujourd'hui, il est en capacité d'avoir un poste de minimum adjoint au sein de l'entreprise. Et c'est à partir de la rédaction de ce document que je me suis dit, il y a un problème. Je ne devrais pas remplir ce document, ce n'est pas à moi de le faire. Et ce document-là, entre guillemets, ou cette logique-là, ce serait à l'entreprise et à la RH de l'avoir, pas à moi. Et c'est à partir de là que qu'est né Nivard.
Et donc, à la suite de votre document, votre compagnon a pu retrouver son poste d'adjoint ou
pas? On est toujours en attente.
Vous êtes en attente.
On est toujours en attente. Ouais. Ça fait des mois que ça dure. Et ça prouve encore la difficulté de valoriser les compétences des élus. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai discuté avec une avocate spécialisée en CSE et qui me disait: votre idée est géniale, puisqu'il y a quelques jours, j'ai été confrontée à cette problématique et malheureusement, nous avons perdu, puisque la salariée était dans l'incapacité de prouver les compétences qu'elle avait acquises. Même si la RH et tous les élus et tout le corps de l'entreprise, ils vous voient. Mais il y a des entreprises, malheureusement, qui ne jouent pas le jeu. Et d'où cette problématique-là que rencontrent pratiquement tous les élus du CSE de France.
Alors, donc, vous avez lancé votre NIVAR. Donc là, vous en êtes où? Parce qu'il faut aussi que vous ayez des agréments, j'imagine, pour que ça soit reconnu et que vous puissiez faire passer ces compétences.
Alors, l'objectif de la plateforme, c'est de créer cette passerelle-là, c'est devenir l'outil qui va faciliter dans la valorisation des compétences. Pourquoi? Parce que le ministère du Travail a mis en place la certification des compétences des représentants du personnel, justement, puisque les syndicats se sont rendus compte qu'il y avait un problème.
Oui.
Et donc, ils se sont rapprochés du ministère du Travail qui a mis en place cette certification. Cette certification, si j'ai bonne mémoire, elle a été créée en 2018. Et le ministère, ainsi que les syndicats, ils se sont mis d'accord, entre guillemets, sur un chiffre: 1000 élus qui devraient normalement, qui auraient dû obtenir cette certification. Au moment où je vous parle, 300 élus ont bénéficié. Ce qui me prouve qu'il y a vraiment une problématique. Et après s'être penché sur l'obtention de cette certification, c'est le parcours du combattant. C'est très difficile. Pour obtenir la certification, il faut participer à 5 ateliers, il faut remplir un dossier de 12 pages, il faut avoir...
Il faut être accompagné,
et puis remonter sur 4 ans, c'est impossible. Déjà que c'est compliqué de se rappeler de ce qu'on a mangé hier, et là on vous demande de vous rappeler, enfin de noter tout ce que vous avez pu réaliser en 4 ans, c'est impossible. Et le but de la plateforme, justement, c'est de centraliser toutes ces données-là, toutes ces actions-là, au jour le jour, que ça soit horodaté, pour que l'élu, à la fin de son mandat, ou même 6 mois avant la fin de son mandat, puisse obtenir ce que moi j'appelle le passeport de compétences, qui va dire aujourd'hui, au moment où le passeport est édité, telle personne est capable de faire ça ou à acquérir telle compétence. Et du coup, ça permet aux RH d'anticiper la mobilité interne pour que l'élu ne se retrouve pas à la fin du mandat en se disant
outil qui était vraiment utile à créer.
Voilà, parce que c'est très compliqué d'obtenir la certification de façon personnelle. Donc, je me suis dit, il faudrait créer un outil anticiper ça tout au long du mandat. Donc à la fin, on a tous les éléments qui sont centralisés et on n'a plus ce travail à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans, etc. C'est dans la logique de la VAE, puisque la VAE, pour obtenir une VAE, on va vous donner un livret, vous allez devoir expliquer les expériences qui sont les plus pertinentes, les problématiques que vous avez rencontrées, qu'est-ce que vous avez fait pour pallier à ces problématiques-là. C'est vraiment dans la logique du VAE, mais de façon, comment je peux dire ça,
officielle.
Automatisée, voilà. Voilà.
Donc, Malia, quelle est la prochaine étape pour vous, là?
Alors, la prochaine étape, c'est le passage en comité de financement avec Initiative. Je suis à côté de maman. c'est dans quelques jours. On est vraiment sur la phase du financement du projet. Le cahier des charges, il est terminé. Le développeur, il est prêt. Donc là, dans quelques jours, passage en comité. Puis après, si bien évidemment le prêt d'honneur est accepté, c'est le passage en banque. Et après, c'est le démarrage de la plateforme qui, normalement, aura lieu d'ici 3 mois, si
D'accord.
tout se passe très bien.
Voilà.
Donc moi je comprends que il va falloir qu'on se revoie toutes les trois parce
oui.
que
oui, on aimerait bien venir vous dire pour, ça y est, c'est fait, c'est créé.
Moi je vous suggère que quand vous êtes vous me passez un petit mail et puis vous me dites et on en
avec
reparle
plaisir.
On parle de la suite. Merci infiniment Malia Toussaint, donc fondatrice de Nivar, lauréate du prix Coup de cœur. Merci pour votre travail essentiel de reconnaissance des parcours et de valorisation des engagements souvent invisible.
Merci.
Merci à vous. Voilà une émission riche qui se termine. Donc je vous avais prévenu, il y a un dernier mot à nous, un petit mot de conclusion avant la fin de l'émission. Aram, je vous donne la parole en premier.
Alors un petit mot de conclusion. Tous les parcours, moi je regarde mes lauréates, mes co-lauréates à côté, tous les parcours sont en leur place dans l'écosystème. Je suis admirative de Charlène et de Malia, je comprends leur motivation et je me dis quand on a une idée qu'elle nous tient à cœur, il faut essayer de la concrétiser. Faut pas rester dans son coin à se dire oh ça serait bien de faire ça. Non, non. On est tous quelque part entrepreneurs. Mm-hmm. Je me découvre entrepreneur. j'avoue que c'est une belle expérience parce que monter tout un projet, le penser, l'organiser,
oui, l'amener jusqu'à son terme. Hein. Ouais.
Voilà. Mais ça a du sens.
Même si ça ne fait que commencer.
Ce n'est que le début. Après, il y a d'autres phases. Je vous en dirai plus dans quelques années.
Merci, Aram. Nous, on est très admiratives de vous parce que vraiment, bravo pour votre projet. Merci à vous.
Merci.
Charlène.
Alors, je rejoins complètement Aram. Moi, ce que je dirais comme mot de fin, c'est qu'on a beaucoup de chance. On ne le dit pas assez souvent, je trouve. Même dans le quotidien, généralement dans les infos, on a toujours généralement des infos qui sont assez dramatiques.
Oui.
On a, en tant qu'entrepreneur, mine de rien, on est accompagné. Il y a énormément d'aide. On se sent soutenu. C'est pas pareil dans tous les pays, il faut le dire. Et surtout, c'est qu'on, grâce à cette aide, ça nous permet de concrétiser tout simplement nos projets. Ça nous donne de l'espoir parce que c'est pas facile d'être entrepreneur aujourd'hui. C'est difficile parce qu'on se remet constamment en question. On est face à nos peurs, à notre stress, et le fait d'avoir effectivement, là, j'insiste, je remercie vraiment du coup des organismes comme Initiative ou 14K qui nous quelque part nous tiennent la main et nous disent allez c'est bon on y va on avance et ça fait un bien
fou.
Et concernant les entrepreneuriades, ça a été une expérience extraordinaire, de belles rencontres. Ça nous a permis aussi de grandir, que ce soit nous les lauréates ou les participants, d'être là aujourd'hui à vous présenter nos projets et à nous dire allons de l'avant. Donc c'est très très positif.
Je suis très contente. On est très contents pour
merci
vous.
Beaucoup.
Merci à vous. Merci d'avoir été là ce matin. Malia. Un mot de conclusion.
Dans la continuité de ce qu'a dit Charlène, très très contente d'avoir été dans ce concours, d'avoir rencontré de belles personnes, d'avoir été lauréate du prix Coup de cœur, parce qu'il y avait de très beaux projets.
Oui, c'est ça.
Il y avait la concurrence en face, clairement. Non, franchement, je suis très très contente, très heureuse d'avoir participé à ce concours, très heureuse de faire partie des lauréates, les trois femmes. Et d'ailleurs, je vais clôturer sur mon projet à moi qui met en lumière les femmes élues. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais 46% des femmes, des élus du CSE, ce sont des femmes. On sait tous que c'est compliqué d'être une femme aujourd'hui dans le milieu professionnel, puisqu'on a déjà un train de retard par rapport à la charge mentale, par rapport aux difficultés qu'on va avoir, par rapport à la vie de famille, etc. Le mandat en lui-même, c'est déjà une charge supplémentaire, puisqu'il faut défendre les intérêts des autres. Et vraiment, mon combat, c'est de faire en sorte que cet engagement-là ne soit plus un sacrifice, mais surtout une fierté qu'elles pourront enfin prouver dans leur parcours professionnel si jamais elles veulent évoluer, changer, faire une reconversion professionnelle. Donc, merci encore à Initiative, 14K, Julie, Mama, pour toutes les personnes qui nous ont accompagnées, les mécènes aussi. On a vraiment bénéficié de 15 jours de coaching de qualité. C'était formidable. On a évolué sur nos projets et vraiment, merci à tous.
Merci, merci Malia et puis mais non je vous en prie
cette émission c'était parce normal. Que ça met encore plus en lumière nos projets et
exactement
c'est un vrai coup de pouce aussi merci beaucoup
merci Aram et merci Malia pour ce message merci. Vis-à-vis des femmes parce que on en parle régulièrement dans l'économie en direct je peux vous assurer
merci.
Julie et puis Mama, donc un mot de conclusion, Julie.
Ouais, merci Jacqueline déjà de nous avoir accueillis une nouvelle fois pour mettre en lumière ce concours qui nous tient à cœur. Donc, je voulais en mot de clôture féliciter à nouveau les lauréates. Vous méritez de ces prix-là et vous avez de très beaux projets. Continuez et n'hésitez pas à demander de l'aide. Continuez à être accompagnés. Voilà. Et à toutes les personnes qui souhaitent créer et souhaitent développer leur entreprise sur le territoire, n'hésitez pas.
C'est ça, le prochain, alors c'est tous les deux ans.
Tous les deux ans.
Le prochain, c'est
fin 2027. Exactement.
Oui, mais il faudra peut-être y penser fin 2026, j'ai envie de dire, non?
Oui. De toute façon, dès qu'on a les dates.
Vous allez communiquer.
La communication commence et si je dois donner des rendez-vous avant la prochaine édition, pour tous les créateurs d'entreprises, le 2 avril à 14K, on organise un Créa Day.
2 avril 2026, donc.
2026,
très
exactement,
bien.
Qui est un salon de la création.
Ok.
Qui regroupera les partenaires entrepreneuriaux. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez créer votre entreprise, à venir en attendant les entrepreneuriats dans 2027.
Bon, ben, on aura l'occasion de reparler de ce 2 avril 2026.
Exactement.
Merci, Julie Martineau.
Merci à vous.
Mama Conté, le mot de la fin est pour vous.
Donc, tout d'abord, merci une nouvelle fois pour cette invitation. Donc, comme les filles l'ont rappelé juste avant, on tient vraiment à remercier dans un premier temps tous les mécènes, tous les partenaires. Merci à Pleine Vallée 14K pour la confiance qu'ils ont accordée à Initiative dans ce copartenariat. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est une magnifique expérience. Merci à toutes les équipes. Donc, sans les mécènes, sans toutes les entreprises et sans tous les partenaires qui nous ont soutenus, ce concours ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on les remercie une nouvelle fois pour la qualité du parcours de coaching qu'ils nous ont accordé. Et aujourd'hui, ce que je veux dire aussi aux entrepreneurs porteurs de projets, c'est que il faut pas tout de suite voir l'économie d'un projet et la rentabilité. Ça fait vivre une entreprise.
Oui.
Mais en fait, le socle et le cœur même d'une entreprise, c'est tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc, il est dans l'entreprise, dans un but culturel, dans un but d'aide à la personne, dans un but d'aide aux salariés. Et en fait, on voit que c'est grâce à ça, quand on a un noyau dur, une idée de projet concrète, c'est ce qui va faire en fait la longévité et la prospérité, en tout cas je le souhaite, de leurs entreprises. Donc une nouvelle fois encore merci pour votre invitation et puis si vous avez des besoins sur le Val d'Oise ou sur les Yvelines, n'hésitez pas à faire appel à Pleine Vallée 14K et à Initiative, nous sommes là pour vous aider.
Moi je rappelle que merci infiniment Mama, moi je rappelle que voilà, s'inscrire aux entrepreneuriats c'est trouver une opportunité unique pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et donner un coup d'accélérateur à votre activité. Et merci à vous qui êtes chacune un maillon essentiel de la chaîne entrepreneuriale.
Si je peux me permettre, Jacqueline, déjà merci à vous parce que je sais que à chaque matinale, vous êtes là en fait pour mettre en lumière. Donc on entend toutes les personnes et toute la polyvalence des différentes personnes que vous présentez dans votre émission. Donc merci encore de nous accueillir à chaque fois et de mettre en lumière et de réinviter ce que je vois à chaque fois passer nos entrepreneurs. Et pour nous, c'est vraiment une fierté que vous puissiez les mettre en valeur.
Écoutez, je crois que c'est vous qui faites un superbe travail, donc voilà, ce n'est que mérité. Merci Mama. Merci à vous tous pour votre écoute fidèle. Merci Francky d'avoir assuré la technique. Je n'ai pas présenté Enzo qui était avec nous tout à l'heure, donc merci Enzo qui est stagiaire pour quelques semaines chez IDFM Radio. Cette émission vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage et sur vos réseaux. À très vite pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée et bon week-end. Mais surtout, restez connectés à IDFM Radio pour la suite des programmes.